Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs et l'info avec Amandine. Bonjour jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un retraité de 70 ans abattu sous les yeux de son épouse. Changement de décor pour Éric Zemmour après le carton d'audience hier lors de son débat face à Jean-Luc Mélenchon. Le polémiste, toujours pas candidat, est en Hongrie. Et puis le RC Lens durcit le ton. Les supporters qui ont envahi le terrain seront désormais privés de stade.
Et juste après le journal, Emmanuel Macron qui retrouve sa cote de popularité d'avant la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'il a plié le match pour 2022? Et à 12h50, le comeback du train Corail, éloge de la lenteur. Mais ce sera évidemment très peu cher et c'est pourquoi ça marchera sans doute, Amandine.
Notre question du jour sur RTL.fr, présidentielle 2022. Justement, le match est-il déjà plié? Eh bien, vous dites non, massivement, à 62%. Notre météo du jour, c'est avec Valérie Quintin. J'allais dire notre Valérie Quintin. Ça fait plaisir de vous retrouver. On termine la semaine au soleil, Valérie.
Oui, c'est vrai qu'il va faire très beau partout. Alors, on a quelques nuages qui circulent sur l'extrême nord du territoire, entre la pointe bretonne, les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes. Quelques gouttes de pluie sur le département du Nord, ainsi que sur le département du Pas-de-Calais. On a 2-3 petites averses également sur les Pyrénées, partout ailleurs du plein soleil. Un soleil qui va se généraliser au fil des heures, avec des températures plutôt clémentes, globalement. 21 degrés à Alençon et à Lille cet après-midi, 22 à Paris, 24 à Tours, à La Rochelle, à Mulhouse, 27 degrés pour Grenoble, 28 à Bordeaux et Montélimar et un bon 30 à Ajaccio.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette histoire terrible, un septuagénaire tué sous les yeux de son épouse, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière à Bouzbek, c'est près de Tourcoing. Franck Hanson, c'est visiblement un cambriolage qui aurait mal tourné.
Oui, et les enquêteurs de la police scientifique sont encore à prélever d'éventuels indices dans cette grande maison en bordure des champs. Vers 3h du matin, trois hommes cagoulés et armés s'en sont pris au propriétaire. Âgé de 70 ans, son épouse était ligotée. Ce maraîcher, bien connu dans la commune, aurait voulu résister. Il aurait reçu plusieurs balles. Corinne, une de ses voisines, a été réveillée en pleine nuit.
Ça a été un choc pour moi. Guylain était un homme extraordinaire. C'est un cambriolage qui aurait mal tourné apparemment. Pour une petite somme dérisoire. C'est des travailleurs qui n'arrêtaient jamais. Guylain était sur son champ du matin jusqu'au soir très tard. C'est terrible.
Selon le témoignage de l'épouse, les agresseurs seraient partis avec un butin de 700 euros. Joseph Lefebvre, le maire de Bouzbek, connaissait bien cette famille de producteurs.
Bouzbek est une ville calme. C'est d'autant plus choquant, oui. Pour moi, ça ne s'explique pas, quoi. On arrive à se demander, la vie a encore un prix ou pas ? Voilà, on arrive à tuer quelqu'un comme ça.
Le parquet de Lille a saisi la police judiciaire. Les trois suspects sont toujours activement recherchés ce midi.
Franck Hanson à Bouzbek dans le Nord pour RTL, près de Lyon à Fézin. C'est un fourgon de transport de fonds qui a été attaqué dans la matinée sur une aire d'autoroute, sur l'autoroute A7. Et puis à Paris, opération d'évacuation des toxicomanes des Jardins des Halles dans le 19e arrondissement. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit avoir entendu la colère des riverains. Fin de citation.
Éric Zemmour était Budapest.
Il doit rencontrer Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Julien Fautra, vous êtes sur place pour RTL. Le polémiste a eu droit à un accueil remarqué.
Oui, arrivée d'Éric Zemmour presque comme un chef d'État il y a une vingtaine de minutes. Un van vitre teinté qu'il a pris en charge à sa descente d'avion. Le rendez-vous s'est organisé ces derniers jours. C'est un déjeuner qui débute en ce moment à la résidence du Premier ministre. La conseillère d'Éric Zemmour l'accompagne. Marion Maréchal devrait aussi être conviée à ce déjeuner.
Et Julien, pourquoi Viktor Orban reçoit Éric Zemmour qui, on le rappelle, n'est toujours pas officiellement candidat ?
Ce qu'Éric Zemmour incarne, une droite ultra-conservatrice, Viktor Orban. Et sur cette ligne, il est à l'origine d'une législation anti-migrant, d'une législation anti-homosexuelle. Il est contre le divorce, contre l'avortement. Éric Zemmour décrit, lui, un Orban comme un homme fin, une histoire d'amour, en somme, entre les deux hommes, car le Premier ministre le reçoit pour la deuxième fois, alors que Marine Le Pen, elle, court après un rendez-vous depuis des années. Elle en a toujours pâti, jamais reçu. La rencontre d'aujourd'hui est donc un coup dur pour la fille de Jean-Marie Le Pen, même si hier elle a annoncé lors de son déplacement à Metz qu'elle rencontrerait elle aussi Viktor Orban en attendant que ça se concrétise.
Julien Fautra en direct de Budapest pour RTL. Éric Zemmour qui débattait hier soir avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Plus de 3 800 000 téléspectateurs ont suivi leurs échanges. La chaîne dépasse toutes les autres, en effet, 4 fois plus que l'émission politique sur France 2. Débat que n'a pas regardé Daniel Cohn-Bendit ce matin sur RTL. Il a d'ailleurs renvoyé les deux hommes dos à dos.
Éric Zemmour ne m'intéresse pas, Tout ce qu'il dit, c'est complètement aberrant, c'est terrible, c'est horrible. Jean-Luc Mélenchon n'a aucune idée, moderne pour la France et intéressante, donc je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps. Ces deux formes de populisme, ces deux formes de simplificateurs, mais ils simplifient différemment.
Daniel Cohn-Bendit sur RTL ce matin, il était l'invité de Benjamin Sportouche. Pendant ce temps-là, les Allemands, eux, s'apprêtent à choisir le ou la successeur d'Angela Merkel. Les élections ont lieu dimanche. Aujourd'hui, grande mobilisation autour de Greta Thunberg à l'occasion de la grève mondiale pour le climat. Léo Boer-Poitiers, vous êtes à Berlin pour RTL.
C'est une manifestation particulière dans un contexte particulier. L'Allemagne vote ce dimanche pour renouveler les députés du Bundestag à quelques centaines de mètres de là. Moritz a 13 ans, il est venu avec sa classe. Il ne vote pas encore, mais il a des idées.
Quoi qu'il arrive, nous devons faire quelque chose. Ce n'est pas seulement de l'avenir des députés qui siégeront à l'Assemblée dont il s'agit, mais de notre futur. Il faut vraiment faire quelque chose.
C'est surtout la venue de Greta Thunberg qui intéresse les jeunes ici. C'est en tout cas ce qui a motivé Charline à venir manifester.
Elle a vraiment le courage de dire la vérité, même si dans sa manière de le faire, elle peut être abrupte et désagréable. C'est son truc.
Cette manifestation, c'est surtout un moyen de mettre une pression maximale sur les politique et favoriser le vote vert. Dans deux jours, les élections ont lieu en Allemagne.
Léo Boer-Poitiers, correspondant d'RTL à Berlin. Des manifestations aussi en France, hein, mais la mobilisation sera sans doute moindre. C'est en tout cas ce que laissaient entendre dès hier les organisateurs.
Trois semaines après la rentrée scolaire, ça se confirme, pas de flambée de l'épidémie de Covid.
Le nombre de classes fermées est même en baisse par rapport à la semaine dernière. 2366 contre 3299 il y a 7 jours. La crise sanitaire qui continue de peser sur les finances de l'État. Le budget de la Sécurité sociale a été présenté ce matin. Pour 2021, le montant des dépenses exceptionnelles consacrées au Covid approche les 15 milliards d'euros. Et ça va continuer, Anaïs Bouisseau.
Oui, alors il y aura beaucoup moins de dépenses hein, que cette année, l'année prochaine, mais la crise ne sera pas encore totalement derrière nous du point de vue des comptes de la Sécu. Près de 5 milliards d'euros sont déjà réservés, budgétés, d'abord pour continuer à vacciner les éventuels retardataires des premières et deuxièmes doses, les troisièmes doses des publics fragiles, et le gouvernement prévoit en plus d'acheter de nouveaux vaccins, pourquoi pas le futur vaccin de Sanofi par exemple, s'il est disponible. Au-delà des vaccins, il faudra toujours financer des tests, beaucoup moins qu'en 2021, puisque désormais les tests de confort ne seront plus remboursés. Mais il restera encore à prendre en charge les tests PCR et antigéniques pour les personnes malades et les cas contacts.
Anaïs Bouisseau du service économie de RTL. Le foot et le directeur général du RC Lens haussent le ton après les incidents de ces derniers jours. Après avoir conseillé aux supporters sans et hors hier de ne pas se rendre à Marseille pour le prochain match dimanche, Arnaud Pouille annonce la fermeture du parc visiteur et des sanctions contre ses propres supporters.
L'ensemble de mesures et de sanctions qui ont été décidées par la gouvernance du club s'inscrivent dans la lignée des diverses directives ministérielles et prises de parole. Nous sommes sur des sanctions individuelles, une interdiction de stade pour toute personne identifiée qui se serait introduite sur la pelouse et le terrain. Ces mesures ne supporteront pas d'exception. Ces sanctions iront de 9 mois d'interdiction à 36 mois d'interdiction, 36 mois étant le maximum de ce qui peut être appliqué à notre niveau. Pour le reste, et notamment pour tous les gestes dans notre stade violents, relevant de l'exhibitionnisme, de l'apologie du nazisme et toute forme de comportement déviant, une plainte sera déposée par le club, soit nominative, quand la personne est identifiée, soit contrice.
Le directeur général du RC Lens au micro RTL d'Antoine Decarne. Lui était sans aucun doute le supporter le plus populaire, au moins à Marseille. Les obsèques de René Malville avaient lieu ce matin. Dans la foule, Hugo Hamelin, de nombreux maillots et écharpes de l'OM.
Absolument, il y avait même une réplique de la Ligue des Champions posée sur l'autel de la paroisse. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Pas de VIP pour les obsèques de Néné Malville, aucun ancien joueur, juste 500 amis venus saluer une dernière fois le personnage.
René était un artiste. Alors, avec la bénédiction de Monsieur le Curé, il sortira de celle-ci comme il le mérite, sous vos applaudissements.
Guy Casadamon est l'ancien directeur de la sécurité de l'Olympique de Marseille.
René, c'est la locomotive. Dans le train, il amène aussi bien des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes d'un certain âge. Parce que, justement, ça revient aussi que c'est un garçon qui est très gentil aussi. Et qui n'aime pas son franc-parler Il ne mâchait pas ses mots. Quoi.
Un dernier hommage devrait lui être rendu dans l'autre église de sa vie, au stade Vélodrome, avant le match contre Lens dimanche soir.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et puis Pascal, vous avez quelque chose de prévu ce soir ?
Non.
Une idée ?
Oh. voisins, les voisines.
Vous n'avez plus de voisins ?
Non, ils ont préféré partir.
D'accord, c'est la fête des voisins ce soir. 22e édition. Alors, initialement, elle était prévue le 28 mai.
Elle mais oui, cette d'habitude,
année
c'est
été...
au printemps.
Bah oui, mais elle a été décalée à cause du
non,
Covid.
Non, c'est très sympa, la fête des voisins.
Oui.
C'est une bonne idée.
Bon, ça dépend de ses voisins. Mais bon, en principe, c'est sympa.
Ça se passe bien entre voisins.
8 Français sur 10 trouvent que ça se passe bien avec leurs voisins.
Bah écoutez, c'est mon cas. Emmanuel Macron, qui retrouve sa cote de popularité d'avant la crise des Gilets jaunes, est-ce qu'il a plié le match ? Et c'est vrai, quand on a vu hier le duel Mélenchon-Zemmour, je suis pas certain qu'on ait vu le futur président de la République. Donc ça sera une des questions. Et puis l'autre question, ça sera le train Corail qui est de retour. Qu'en pensez-vous ? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Emmanuel Macron reprend des couleurs.
La cote d'Emmanuel Macron s'envole. On parle de 6 points de plus en un mois, 46% d'opinion favorable.
6 points en un mois, c'est le résultat de notre baromètre mensuel BVA Orange pour RTL. Le président, vous l'avez entendu, revient à son niveau de popularité d'avant la crise des Gilets jaunes. Alors à 7 mois tout pile du premier tour de la présidentielle, a-t-il pour autant plié le match ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut BVA qui réalise ce sondage, cette enquête pour RTL chaque mois. 46% d'opinion favorable. Emmanuel Macron progresse dans toutes les catégories de la population. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi l'effet passe sanitaire, bonne gestion de la crise Covid ?
Ça fait partie des éléments qui... on interroge en général les individus sur ce qu'ils pensent et ensuite on leur demande pourquoi. Et là... J'ai regardé ce matin ce que nous racontaient les électeurs ou les citoyens qui ont répondu à la question. Et vous avez encore une fois une structuration qui est assez claire. Chez ceux qui soutiennent aujourd'hui Emmanuel Macron, il y a quelques éléments vraiment structurants. La gestion de la crise du Covid, vous avez raison, elle est mise en avant. Alors ses opposants disent au contraire que la gestion c'est n'importe quoi, mais en tout cas chez ceux qui le soutiennent, le fait de s'être adapté, le fait d'avoir résisté, le fait d'avoir infusé encore une fois dans l'économie française une capacité de résistance, c'est un premier point. Il y a un deuxième élément qui est aussi présent, c'est le fait de dire il y a toujours ces éléments de caractéristiques, de je réforme, j'avance, je bouscule un peu les choses, c'est toujours présent. Donc vous avez ces éléments-là qui structurent, qui sont les deux grands blocs de soutien à Emmanuel Macron. Et en plus, certains autres disent qui ferait mieux ? Donc il y a aussi l'effet de contraste qui permet de dire bah, je le soutiens parce qu'en gros personne ne
le soutient. Juste attention, opinion positive, ça ne veut pas dire intention de vote en vue de 2022.
Surtout pas. C'est bien sûr un peu mieux, plus confortable d'avoir dans les popularités un soutien qui est important. Mais lorsqu'on vous interroge sur la popularité, on vous interroge sur une personne. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron ? J'aime, j'aime pas, je soutiens, je ne soutiens pas. Une intention de vote, vous êtes en concurrence avec 10, 15 autres personnes. Donc on n'est pas du tout dans le même jeu. Et puis ce ne sont pas les mêmes corps. Le corps électoral, 100% des Français, on va dire qu'on interroge, répondent sur la popularité, ils ne vont pas tous aller voter. Donc il y a aussi la question de la mobilisation. C'est mieux d'être bien positionné d'un point de vue de la popularité, mais pour autant, on ne peut pas avoir un lien aussi automatique en disant c'est gagné si je suis au-dessus de 30, de 40, de 50.
Est-ce que Marine Le Pen reste son principal adversaire ?
Alors, si vous parlez des intentions de vote, et si vous parlez d'intentions de vote, aujourd'hui, c'est clair, les intentions de vote, dans l'état actuel des choses, elles apparaissent toujours comme celles étant potentiellement face à lui au second tour. Donc, bien sûr, de ce point de vue-là, on peut dire que oui. D'un autre côté, lorsqu'on interroge...
Et donc, toujours battu en même temps.
Et toujours battu en même temps.
D'où notre question, est-ce qu'il a plié le match ?
Plier le match n'est pas joué.
Il a commencé le match, vous diriez, à 7 mois de
premier tour. Bien sûr, en tout cas... Pour les équipes politiques, il a commencé. Pour les Français, ce n'est pas encore complètement sûr. Ils sont
sauf
pas
qu'hier soir, il y avait 3 800 000 personnes qui ont regardé.
Vous avez raison.
Lorsqu'on dit que les Français ne s'intéressent pas à la politique, Mélenchon, Zemmour, sur une chaîne info, c'est première chaîne de France.
Oui, oui, j'ai vu ça comme vous. Il s'intéresse à, en tout cas, une forme d'expression de la politique.
Vous voulez dire que c'était du combat de boxe ?
C'est un des éléments qui a amené les Français derrière leur poste, ou devant leur poste, pour aller voir ça. C'est vrai qu'on parle de Zemmour, mais c'était Zemmour-Mélenchon. Je ne vais faire insulte à personne, mais Zemmour quelqu'un d'autre ou Mélenchon quelqu'un d'autre, il n'y a pas cet effet d'entraînement.
Et Pécresse Darmanin fait 1 million. C'est-à-dire qu'hier soir, il y a 5 millions de Français qui ont regardé de la politique.
C'est vrai, ça n'est pas rien. Ça veut dire que ça commence à infuser. 5 millions, on est loin du corps électoral qui est à peu près 10 fois supérieur. Mais c'est vrai.
Est-ce que de l'audience fait des votes ? Je m'explique. Est-ce qu'un candidat, ou d'ailleurs homme politique, personnage public qui fait de l'audience, a des chances d'un point de vue purement électoral ou il n'y a pas forcément de lien ?
Il n'y a pas forcément lien, mais c'est vrai que ça installe. C'est vrai que c'était sans doute une des motivations au débat d'hier, pour l'un comme pour l'autre, le fait de pouvoir s'installer, le fait de pouvoir avoir des rebonds. Et vous voyez comment on en parle, c'est-à-dire que même si vous dites, allez, 3,8 millions, 4 millions, mais les rebonds, le million de personnes qui sont aujourd'hui impactées par le fait que, ah oui, ça a fait l'audience, ah oui, il est là, donc ça installe et ça attire le regard pour les fois suivantes.
Encore un mot sur le baromètre et Éric Zemmour, c'est la première fois que vous le testiez, comme on dit, c'est ça et on s'aperçoit qu'il prend autant, en tout cas, il intéresse autant les sympathisants LR que les sympathisants RN.
Oui, alors il faut bien préciser que la question que l'on pose, nous, c'est non pas une cote d'avenir, mais un souhait d'intervenir dans la vie, d'être présent dans la vie politique française. Donc en gros, on demande, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir un rôle plus important? Oui, vous avez raison, c'est la première fois qu'on le teste. Il arrive à un niveau, il est presque dans le top 10, avec le niveau des ex-échos, ce qui n'est franchement pas rien. Et lorsqu'on regarde là où il a un impact le plus fort, c'est effectivement à peu près de manière équivalente chez les sympathisants du Rassemblement National et chez les sympathisants des Républicains, de cette autre partie de la droite. Pour autant, le match est plus important dans l'autre partie de la droite, c'est-à-dire qu'il arrive plutôt autour 8-10e dans la liste de ceux qui comptent ou qui sont importants pour les sympathisants des Républicains. Ce qui est important, c'est qu'au Rassemblement National, il y a moins de concurrence. Donc il arrive tout de suite derrière Marine Le Pen.
Chez les Républicains, il arriverait en 10e position derrière les personnalités des Républicains, c'est ce
que
vous
dites ? Oui, absolument, absolument. Il y a
9 personnes devant
lui. Absolument, absolument, je peux vous les citer, mais enfin, toutes les personnalités politiques traditionnelles, encore une fois, chez les électeurs, les sympathisants des Républicains, les autres ont
mais
une cote d'avenir plus importante.
Mais pourquoi, à ce moment-là, et je rejoins la question d'Amandine, pourquoi les gens n'écoutent pas les autres personnalités des Républicains et pourquoi le public va, depuis 15 jours, écouter, acheter son livre ? Pourquoi le phénomène Zemmour ?
Parce que ça n'est pas que de la politique. Vous savez bien, ça n'est pas que de la politique. Les gens viennent aussi voir un petit peu la battle. Vous parliez tout à l'heure du match de boxe.
Mais le livre ?
Ah, le livre, je ne sais pas, vous avez peut-être les éléments des ventes par rapport à... Et je ne sais pas qui l'achète, le livre. Et encore une fois, si le livre se vend à 100 000, le corps électoral, c'est 46 millions.
Merci beaucoup, Edouard Le Serre.
Merci, et je retiens que le match n'est pas plié à 12h40. Ce qui nous arrange, parce qu'on a pas mal d'émissions à faire, figurez-vous.
C'est mieux,
effectivement. Bon. Le train Corail, vous prenez le train Corail, vous allez le prendre 10 euros, c'est intéressant. Alors évidemment, c'est plus long pour aller à Nantes, c'est 4h45 au lieu de 2h en TGV. Mais si vous payez 10 euros, il y a match. A tout de suite.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Comme nous avions fait pour le Ouigo, on avait transformé un TGV en TGV Ouigo. Et bien là, on a transformé un train Corail en Ouigo vitesse classique.
On vous en parlait dès hier à la même heure sur RTL. La SNCF relance le train Corail et la version 2021 ne sera pas orange mais rose et s'appellera Ouigo vitesse classique. Alors est-ce une réelle avancée, un progrès, faire du neuf avec du vieux? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste des questions de transport ici à RTL et on vous retrouve en direct de la gare Montparnasse à Paris. Qu'en disent les voyageurs ? Bonne idée ou pas ?
Alors ceux que j'ai rencontrés ce matin, alors pour la plupart ils sont jeunes et en fait la lenteur du trajet ne les effraie pas du tout, bien au contraire.
Bien sûr, moi tant que c'est moins cher et que ça me permet quand même d'arriver à destination, clairement il n'y a pas de souci pour ça et le temps de trajet c'est pas un problème étant donné que la voiture dans tous les cas ça reste un peu moins pratique à certains points et franchement pour 30 euros c'est parfait. Hein.
Je pense que c'est une bonne chose pour éventuellement remplacer les trajets en voiture, ça peut être plus économique.
Et à choisir entre un train basse vitesse et un car longue distance ?
Ouais, je partirais plus sur le train. Je pense qu'il y a quand même moins de retard sur les trains que les bus.
Alors vous le voyez, hein, excepté cette couleur rose qui fait plutôt rire, l'idée de Céline Corail, en fait elle séduise hein, certains voyageurs très clairement devant la gare Montparnasse, oui.
Bon, c'est le prix l'argument là, compris.
Ah bah oui, clairement, parce que les prix, effectivement, ils vont aller de 10 à 30 euros pour un Paris-Lyon. C'est quand même 5 heures de trajet au lieu de 2, on le rappelle. Idem pour le Paris-Nantes, ce sera de 10 à 30 euros aussi. Pour le Paris-Lyon, il y aura 2 allers-retours par jour. Et pour le Paris-Nantes, 3 allers-retours par jour. C'est quand même beaucoup et c'est une nouvelle offre de la SNCF qui peut paraître intéressant pour beaucoup de clients tout de même.
En fait, Arnaud, c'est une formidable idée. Je disais tout à l'heure, Paris-Nantes, 4h45. En fait, c'est 3h45. Mais 3h45, c'est le temps que vous mettez en voiture pour faire Paris-Nantes. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas forcément pressés. On pense notamment aux plus jeunes qui n'ont pas forcément un rendez-vous et qui peuvent très bien préférer prendre ce train et rester 3h45 parce qu'ils vont payer 10 euros. C'est ça qui est formidable.
Oui, et il faut préciser également que ces prix-là sont de 10 à 30 euros. Alors, c'est selon les périodes, mais surtout, c'est des prix plafonnés. C'est-à-dire qu'au dernier moment, vous ne payerez jamais plus que 30 euros pour l'aller simple. Mmh. Alors, peut-être avec un tout petit supplément bagage de 5 euros. On peut aussi prendre son vélo. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, dans les Ouigo aujourd'hui ou dans les TGV où les vélos, on ne peut pas les prendre aussi facilement que ça. En revanche, dans ces bons vieux trains corail que beaucoup de Français connaissent depuis les années 70, on peut prendre son vélo.
Et comment ? Mais vous savez que ces trains corail, le TGV, par exemple, sur la ligne Nantes-Paris, il doit dater du début des années 85-86. Avant, c'était le train corail.
Bon, absolument.
Arnaud, en matière de transport, vous nous parlez souvent d'innovation, de trucs ultra technologiques. C'est pas bizarre de revenir au train corail des années 70, alors par exemple qu'en 2024, il y aura des taxis volants dans Paris ?
Oui, c'est vrai, je sais que ça vous passionne et c'est normal car dans les transports, le progrès en fait technologique, il avance très vite. Souvent, je vous parle de prototypes, mais quelques années plus tard, c'est notamment le cas pour le taxi volant, on en parlait il y a 2 ans, le prototype a été présenté l'année dernière et normalement, il volera par exemple entre Versailles et Paris en 2024. Mais je comprends votre question parce que quelque part, la SNCF va un peu sur tous les tableaux. Il y avait la grande vitesse jusque-là, le rêve français avec Patrick, vous vous souvenez du premier TGV, on a fait des records de vitesse et désormais, eh bien là, depuis quelques années, on revient vers le train de nuit. Souvenez-vous de Jean Castex qui faisait l'annonce lui-même. Notamment, il a pris le train entre Paris et Nice. Il y aura aussi le Paris-Tarbes qui va rouvrir le 10 décembre. Et les premiers résultats sont très encourageants. Et le train de nuit, évidemment, on met pratiquement plus de 7 heures pour aller à Nice. Ça ne dérange pas les gens. Et il y a un nouveau public. Vous vous souvenez peut-être du Flixcam, c'est la honte de prendre l'avion. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour des arguments écologiques, qui prennent ces trains-là. Donc, il y a vraiment une nouvelle clientèle à séduire. Et ça, la SNCF l'a très bien compris. Mais aussi, il faut dire que la SNCF, elle investit aussi dans les nouvelles technologies, parce que par exemple en 2024, il y aura aussi le TGV-M, vous le savez, c'est le TGV du futur. Celui-ci, il n'ira pas forcément plus vite, parce qu'on est limité en fait, 320 km/h, ça n'ira pas plus vite, mais là aussi, on essaye de répondre aux nouveaux usages, c'est-à-dire que l'intérieur des TGV sera entièrement redesigné. Donc la SNCF, en fait, elle mise sur la complémentarité, la grande vitesse, du rapide, du lent, du premium, mais aussi du low cost et aussi peut-être de l'éloge de la lenteur finalement.
Pendant que vous parliez, je regardais sur mon application SNCF le prochain train Paris-Nantes. Il est à 14h26 en seconde classe. Est-ce que vous savez à combien est le billet si je le prends maintenant ?
Il est au-delà de 70 euros.
Mais il est à 108 euros.
108 euros, effectivement.
En seconde classe.
Absolument. Et le bus, vous le savez, Pascal, combien c'est cet après-midi ? Entre 34 et 70 euros. Là, ce sera 30 euros maximum pour la SNCF, donc avantage SNCF. Bah,
donc le train, d'abord, c'est extrêmement cher. Et là, 10 euros, bah, je peux vous dire que, bien sûr, ça va être un succès.
Mais ce sera plus long.
Mais alors, 3h45.
N'est pas obligé, tout le temps prévu.
Ce sont les sièges les plus moelleux de la SNCF, Pascal.
Non, mais c'est très bien. Et puis, éloge de la lenteur. Vous parlez pour arriver une heure quart plus tôt pour faire quoi ?
Merci Arnaud Tous.
Merci Arnaud. Vous revenez comment ? En train ?
En trottinette.
Ah bah je vais prendre le métro, évidemment, les transports publics pour revenir à nous.
Il est 12h57. On va recevoir Alice Coffin dans une seconde. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré son livre. Le génie lesbien, ça peut vous étonner, mais son livre est formidable, intelligent, subtil, assez différent d'ailleurs de l'image parfois caricaturale qui est donnée d'Alice Coffin. Mais l'important, c'est les auditeurs. Les auditeurs vont pouvoir échanger avec Alice Coffin et essayer de la comprendre et de comprendre ce mouvement féministe qui est parfois radical, disons-le. À tout de suite.
RTL Midi.